Dans le cadre d'un partenariat entre le collectif des radios libres d'Occitanie et la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, les radios membres du CRLO vous proposent des magazines sur le thème des luttes contre la pauvreté et les discriminations. Aujourd'hui, Radio Campus Montpellier sur le thème « L'insertion professionnelle et sociale ».
En octobre 2018, le gouvernement lançait sa nouvelle stratégie nationale de lutte contre la pauvreté. Se déployant autour d'une délégation interministérielle et de commissaires répartis sur tout le territoire, elle se veut transversale. L'objectif est simple, faire face à la hausse des inégalités et de la précarité. Pour cela, 5 engagements sont formulés autour de 3 publics jugés prioritaires. Les enfants, les jeunes et les allocataires du RSA. Ces engagements sont, je cite, « l'égalité des chances dès les premiers pas pour rompre la reproduction de la pauvreté », garantir au quotidien les droits fondamentaux des enfants, un parcours de formation garanti pour tous les jeunes, des droits sociaux plus accessibles, plus équitables et plus incitatifs à l'activité, et enfin, investir pour l'accompagnement de tous vers l'emploi. Le collectif des radios libres d'Occitanie vous propose donc une série de reportages pour mieux comprendre le développement et l'impact de cette stratégie au niveau de la région. Radio Campus Montpellier s'est ainsi penché sur la thématique large de l'insertion professionnelle et sociale. Nous avons choisi de nous concentrer plus particulièrement sur les publics jeunes de moins de 30 ans. Et pour cause, près de 31% d'entre eux vivaient sous le seuil de pauvreté pour l'année 2019 dans l'Hérault, selon les chiffres de l'INSEE. Pour faire face à ce constat, de nombreux acteurs développent des outils, des dispositifs et des projets pour accompagner au mieux les jeunes dans leur formation et dans leur insertion professionnelle et sociale sur le territoire. Cette insertion est d'ailleurs présentée dans la stratégie nationale du gouvernement comme étant l'un des boucliers les plus efficaces pour lutter contre la précarité. Radio Campus Montpellier est donc allé questionner certains acteurs qui accompagnent les jeunes vers la formation et l'emploi sur notre territoire. Des interlocuteurs de l'Université Paul Valéry, du Conseil départemental de l'Hérault, ainsi que du CRIJ, le Centre Régional d'Information Jeunesse, ont accepté de répondre à nos questions.
Bonjour, je suis Claude Chastagnier et je suis le vice-président de l'université, délégué à l'entrepreneuriat, aux relations avec le monde socio-économique et à la professionnalisation. Et donc notre tâche, je suis à la responsable politique d'une petite structure, d'une direction, dont la tâche est de favoriser par tous les moyens l'insertion de nos étudiants dans le tissu professionnel, dans le tissu socio-économique.
D'accord. Et donc j'imagine que pour cela, la première étape, est-ce que ce ne serait pas un travail avec le SCUO, le service
Absolument.
D'information et d'orientation ?
C'est une des structures avec lesquelles je suis le plus en relation, tout à fait.
Donc il y a un penchant en fait d'accompagnement pendant les études, et puis ensuite un penchant d'accompagnement après les études pour les permettre de se professionnaliser ?
Absolument. On travaille sur tous les plans. On essaye par exemple de travailler avec une structure qui s'appelle Pépite, qui est un programme qui a été mis en place par le gouvernement il y a une petite dizaine d'années, pour sensibiliser les étudiants à l'entrepreneuriat étudiant. Donc ça, c'est un des volets de mon travail en relation avec les gens de Pépite, leur montrer quels sont les outils qu'on met à leur disposition pour développer des capacités, développer des compétences. Mais nous travaillons également avec d'autres structures. Nous avons par exemple gagné des appels à projets, ce qu'on appelle des appels à projets, où on obtient des financements pour une certaine durée. Donc là, par exemple, il y a un appel à projet qui a été gagné par l'université pour une dizaine d'années, pas mal d'argent qui arrive, on rentre dans la quatrième année, et qui sert à développer tout ce qu'on appelle l'approche par compétence, les labels, etc. Bon, l'approche par compétence, c'est une nouvelle conception de la pédagogie qui va montrer aux étudiants et aux employeurs, on montre aux deux à la fois, non pas simplement j'ai tel diplôme avec tel titre, ce qui parfois n'est pas très parlant, mais je sais faire ci, je sais faire ça, avec toute une liste de compétences qu'ils vont avoir développées et qui vont figurer sur les résultats et qui vont être beaucoup plus parlant pour les employeurs et qui devrait, qui commence déjà à faciliter l'embauche parce que les employeurs se disent « Ah, vous sortez d'une fac de lettres, sciences humaines et tout ça, on ne sait pas trop ce que vous y faites, mais là, avec les compétences et le référentiel que vous me proposez, ça devient plus clair. » Donc il y a plusieurs volets à ce projet et ceux dont je vous ai parlé, c'est ceux qui sont le plus directement en relation avec l'emploi, avec l'insertion de nos étudiants.
D'accord.
C'est un des axes du projet Nexus. Il y en a d'autres dans le projet Nexus. Il y a le développement d'un regard à la fois critique et d'une plus grande aisance avec le numérique. Parce que le numérique, il peut être regardé de différentes façons. Il peut être regardé comme source de fracture pour les étudiants qui n'ont pas l'argent. Donc, par exemple, pendant la crise Covid, on a mis plusieurs centaines d'ordinateurs à la disposition des étudiants. On renouvelle le projet encore maintenant, même alors que la crise est en principe passée, parce qu'il y a besoin d'aider les étudiants sur le plan financier pour acquérir ces outils. Mais il y a une autre façon de regarder le numérique et la crise que peut entraîner le numérique, qui est paradoxale, qui est que pendant longtemps, ceux qui n'avaient pas le numérique, c'était plutôt les gens en situation défavorisée, mais qu'on s'aperçoit aujourd'hui que trop de numérique est nuisible, et que c'est au contraire les gens de milieux plutôt aisés et intellectuellement favorisés qui se détachent du numérique. Et que le contexte paradoxal, ça va être que les gens de milieux plus modestes, mais qui ont accès au numérique, vont finalement être dans une démarche intellectuelle, pédagogique, moins favorable que ceux qui arrivent à prendre leur distance avec le numérique. Ils vont être pris dans les réseaux sociaux, dans tout ça. Et donc, un des axes du projet Nexus, c'est de faire prendre conscience de tout ça aux étudiants et de leur donner une distance critique pour qu'ils puissent tirer tous les avantages positifs du numérique sans être entraînés dans les travers de cet outil. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est dans une université qui a une situation un peu critique. Nous sommes, je crois, une des, ou sinon l'université de France qui a le plus d'étudiants boursiers. D'accord. Et donc ça donne une idée de la précarité économique de nos étudiants, et qui souvent a un impact sur leur précarité sociale, sur leur santé, et tout cela complique le recrutement. Un étudiant qui n'arrive pas à être concentré sur ses études parce qu'il a des difficultés, parce qu'il doit travailler à côté pour gagner sa vie, parce qu'il a des difficultés personnelles, etc., n'arrivera pas à valoriser, déjà à bien suivre ses études, et aura plus de mal qu'un autre à les valoriser auprès des employeurs. Donc notre université, notre région est particulièrement critique sur ce point, et donc nous sommes amenés à redoubler d'efforts pour aider nos étudiants.
Oui, donc finalement, l'insertion professionnelle et sociale, donc votre mission, elle est indissociable de la lutte contre la précarité. Donc j'imagine que vous collaborez pas mal avec tout ce qui est la vie de campus et les aides sociales.
Il y a une vice-présidence qui a été créée spécialement pour la vie de campus, qui, alors c'est une autre personne, mais qui travaille beaucoup sur l'aide aux étudiants en situation de précarité. Situations de précarité qui peuvent être de tous ordres d'ailleurs, parce que bon, on pense souvent dans un premier temps à précarité économique, mais je pense par exemple aussi aux étudiants qui sont en situation de changement de genre, par exemple, qui entraînent des difficultés assez importantes. Là aussi, nous avons monté une mission avec une personne qui est responsable de cette mission d'insertion et d'aide aux étudiants en situation de précarité sociale, humaine, etc. Et donc, il y a des gens dont c'est le métier sur le campus d'aider les étudiants.
D'accord. Et alors, il y a aussi le système de l'alternance qui s'est beaucoup développé ces dernières années, notamment avec le plan Un jeune, une solution qui a été lancé pendant la crise Covid. Comment ça se traduit au niveau de l'université ? Vous avez eu une accélération des offres d'alternance ?
Très net. Grande accélération de l'alternance. Alors, nous ne sommes pas les premiers sur la région, puisque c'est quand même l'UM qui a le plus d'étudiants en situation d'alternance, l'Université de Montpellier. Déjà, parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux que nous, ils sont 50 000 étudiants, nous on est 23 000. Et deuxièmement, parce que la nature même des enseignements en droit, en sciences économiques, en sciences dures, qui sont donnés à l'Université de Montpellier, se prête plus à l'alternance. Néanmoins, nous sommes les deuxièmes, et nous, surtout, nous voyons une très nette accélération des étudiants, de l'engouement des étudiants pour l'alternance. Nous avons organisé lundi dernier, la journée de l'alternance, la première journée de l'alternance. Nous avons recruté, il y avait déjà une petite cellule alternance, mais nous avons recruté du nouveau personnel entièrement dédié à la promotion, à la valorisation et à la mise en place de l'alternance sur le campus. Vraiment, c'est quelque chose de très utile et très important, y compris dans une fac lettres, sciences humaines, sciences sociales.
Bien sûr. Et pour finir, selon vous, quels sont les principaux chantiers, les principaux enjeux au sein de l'université pour continuer sur cette lancée et favoriser l'insertion professionnelle et sociale des étudiants ?
Deux chantiers. Le premier, c'est l'ouverture sur le monde socio-économique. les chefs d'entreprise, les employeuses, les employeurs n'ont pas le temps, ne sont pas forcément au courant de ce qui se fait chez nous, vont avoir des réflexes qui vont être plutôt une école de commerce, une école privée. Donc il faut se tourner vers eux et arriver alors à faire passer le message de ce qui se passe chez nous et à quel point nos étudiants sont bons et nos étudiants peuvent leur apporter quelque chose à eux et à la société dans son ensemble. Le deuxième axe, il est assez proche, c'est toujours sur l'axe de la communication, c'est arriver à toucher nos étudiants, et surtout quand ils arrivent en première année, parce que c'est là que c'est l'enjeu, et c'est là que c'est compliqué, parce qu'en première année, bon, ben, la fac, c'est une grande machine anonyme, on n'est pas encadré, on se retrouve avec des groupes deux fois plus importants, voire dix fois plus importants qu'au collège ou au lycée, et là, il faut qu'on fasse passer de l'information sur tous les outils qu'on a justement mis à leur disposition, Pépite, dont on parlait tout à l'heure, etc. Et je rencontre encore, juste avant vous, j'étais en réunion avec des étudiants, l'étage au-dessus, et ils m'ont dit n'avoir découvert Pépite que lorsqu'ils étaient en master. Et ça, ça pose problème, et il faut vraiment qu'on travaille sur ça pour qu'il y ait de l'information qui circule. C'est plus que de la com, c'est de l'information.
L'enjeu pour l'université de Paul Valéry est donc déjà l'information, essentielle pour que les étudiants puissent connaître les dispositifs et les aides proposées à leur égard, et justement renseigner les jeunes, étudiants ou non, est précisément la mission du CRIJ.
Bonjour, donc moi je m'appelle Laurent Parra, je suis conseiller information jeunesse au CRIJ Occitanie et plus spécifiquement sur le point information jeunesse espace jeune citoyen de Pierre-Vive en partenariat avec le département de l'Hérault. Les missions du CRIJ sont assez simples. On renseigne les jeunes. Notre public, c'est les jeunes de 12 à 30 ans. Moi, j'ai l'habitude de dire à 360 degrés, c'est-à-dire un peu sur tous les domaines qui les concernent. Vie quotidienne, santé, job, orientation, métier, insertion, mobilité, droits sociaux, etc.
Depuis 2018, du coup, le gouvernement a initié une stratégie nationale de lutte contre la pauvreté, avec un volet important sur l'insertion professionnelle et sociale en tant que bouclier efficace contre la précarité des jeunes. Concrètement, qu'est-ce que le CRIJ apporte vis-à-vis des jeunes pour l'insertion professionnelle et sociale ?
Nous, le CRIJ a toujours été de toute façon un domaine dans lequel on a travaillé. Après, ça se décline de façon multiple. Hein. On s'appuie un peu sur les dispositifs existants, hein, d'État, un jeune, une solution. On a des liens, on fait du réseau avec Pôle emploi, les missions locales. On organise des forums dans les quartiers, QPV, politique de la ville, où on essaye de mettre... on est en synergie avec d'autres acteurs pour amener au plus près des habitants. Donc l'idée, c'est d'aller vers... parce qu'on a vu que les jeunes se déplaçaient de moins en moins et le Covid n'a rien arrangé, quoi. Donc on essaye de se déplacer vers les jeunes avec d'autres structures pour amener de l'information, hein, sur la formation, sur l'emploi. Et puis après, d'un point de vue un peu sur le local, sur ce qu'on fait un petit peu au quotidien, eh ben, on a déjà des offres de services de job, de services civiques. On aide bien sûr à la rédaction de CV, de l'aide de motivation. On peut aider sur les simulations d'entretien d'embauche. Voilà, on est un peu couteau suisse, donc on reste en veille sur tous les dispositifs et on essaye d'aiguiller au mieux et de donner les meilleures armes pour après aller chercher une formation acquise à la région, à la mission locale, au Pôle emploi. Voilà. Donc souvent c'est du premier entretien où on arme un petit peu la personne, on lui donne tout ce qu'il a besoin de savoir et tous les dispositifs et solutions qui s'offrent à lui. Et puis après on n'est pas sur un suivi comme peut faire la mission locale ou la Pôle emploi. Donc de temps en temps les gens reviennent, on fait du suivi, de temps en temps ils repartent après l'info. Voilà, je pense que ça se passe bien. S'ils ne reviennent pas, c'est qu'ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient.
Tu me parlais du plan Un jeune, une solution. Comment ça fonctionne ? Quel est le principe ? Et peut-être si tu sais depuis quand ça existe ?
Alors, c'est quelque chose qui a été lancé par l'État. Je pense que ça a eu à peu près 2 ans. C'était on l'a vu apparaître, je crois, pendant le Covid. C'est tout simplement une plateforme, hein, numérique dans laquelle on trouve énormément de choses. Moi personnellement je m'en sers pour faire de la veille un peu sur tous les événements. Donc il y a beaucoup d'événements qui sont en ligne, qui sont annoncés, des forums métiers notamment, sur lesquels on peut s'inscrire directement. Voilà. Après, bon, il y a d'autres dispositifs. Hein. Il y a toutes les formations financées par la région qu'on peut trouver sur des sites où on peut accompagner à la recherche. Il y a la maison de l'orientation de la région. Il y a les missions locales qui font aussi leur travail avec les jeunes. Donc en fait, tout ça, c'est un petit peu complémentaire. Nous, notre spécificité, c'est d'être ouvert un petit peu à toutes les demandes, quoi. Donc on a des expertises un petit peu dans l'orientation, dans la rédaction de CV, de l'aide de motivation, candidature, un peu fracture numérique pour aider à allier administration. Et puis après, sinon on oriente, hein, quand on n'a pas l'expertise, on oriente sur les structures adéquates.
Et est-ce que vous avez pu observer une évolution peut-être depuis que la stratégie a été lancée en 2018 au niveau des dispositifs d'aide à l'insertion sociale ? Est-ce qu'il y a eu une accélération ou pas spécialement ?
Alors, bon, des dispositifs, il y en a toujours eu. Hein. Moi, ça fait une trentaine d'années que je travaille dans la jeunesse, donc ça se... Voilà, un en chasse l'autre, sans être ironique. Après, je pense qu'il commence à y avoir une prise de conscience un peu de la difficulté de la jeunesse, enfin, j'espère, quoi, en tout cas, sur les étudiants qui ont vécu une très mauvaise période pendant le Covid. Donc, on a vu apparaître un petit peu des dispositifs d'aide, notamment sur la santé mentale, ou des choses comme ça. Donc après, il faut que ça suive sur l'insertion. Je pense que c'est en marche. Il y a quelque chose qui il y a une prise de conscience au niveau des pouvoirs publics et il faut insister, quoi, et puis faire un peu du lobbying, quoi, pour que les jeunes soient entendus, parce que malheureusement ils ne votent pas. Et donc, de temps en temps, il passe un petit peu après le reste en termes de priorité. Mais il y a un chantier, clairement.
Selon toi, ce serait quoi les enjeux pour les mois qui arrivent, justement ?
Je pense qu'il faut il faut poursuivre déjà dans l'existant. Il faut amener l'information sur les métiers, sur les formations, les métiers de demain, au plus près des jeunes, quoi, se déplacer, aller vers. Et puis après, bon, il y a l'idée qui est un petit peu dans les cartons là, qu'on entend de temps en temps, d'un revenu minimum inconditionnel ou relié peut-être à de la formation ou à de l'insertion. Parce qu'il y a des grosses difficultés financières, et puis on sait que la précarité, ça aide pas à faire des études, les petits boulots, il y en a pas forcément, il y a une vraie problématique là, à ce niveau là, quoi.
La précarité, quelle que soit la forme qu'elle peut prendre, doit donc nécessairement être prise en compte dans l'élaboration des dispositifs d'aide à l'insertion sociale et professionnelle. Pour être le plus efficace possible en ce sens, les pouvoirs publics cherchent à se coordonner entre les différentes échelles de l'action publique. Et le département joue ainsi un rôle prépondérant dans le déploiement de la stratégie nationale et plus largement dans l'accompagnement des jeunes vers la formation et l'emploi.
Je suis donc Claudine Vassas-Mingerie, vice-présidente déléguée à l'insertion et à l'économie sociale et solidaire au département de l'Hérault. Alors déjà, le taux de pauvreté chez les jeunes, oui, est très important. On sait aussi, dans la population générale, le taux de personnes vivant sous le seuil de pauvreté de 26% sur la ville de Montpellier et 19% sur la métropole dans son ensemble. Et le département de l'Hérault a des poches d'extrême pauvreté, notamment sur le littoral, l'arrière-pays. Donc sur les jeunes, eh bien évidemment, nous avons beaucoup d'étudiants sur la ville de Montpellier. Certaines formations déjà ne permettent pas aux étudiants de travailler à côté parce qu'elles sont, je pense par exemple aux études d'infirmier, où je sais qu'un directeur me disait qu'il avait de plus en plus d'étudiants qui par exemple dormaient dans leur voiture parce qu'ils ont des bourses mais qui sont modestes et ça ne leur permet pas de vivre correctement quand leurs parents ne peuvent pas les aider. Et on sait que cette période de Covid a été vraiment assez dramatique pour les étudiants qui ont été à la fois isolés lorsqu'ils ne pouvaient pas rentrer chez eux, rester seuls sur le lieu d'études qui était fermé, et par ailleurs des difficultés financières importantes. La stratégie pauvreté au département de l'Hérault fait l'objet d'une convention avec l'État. Nous avons un cofinancement de l'État d'environ 1,5 million par an, je pense, mais ça s'inscrit tout à fait dans notre programme départemental d'insertion qui tourne autour de 18-19 millions d'euros chaque année, hein, pour permettre aux nombreux allocataires du RSA, qui sont au nombre à peu près de 45 000 dans le département de l'Hérault, d'être accompagnés vers un retour à l'emploi, mais avec au préalable souvent la nécessité de lever les freins à l'emploi. Je parle par rapport à la santé. Nous savons que lorsque les gens, et ça c'est la même chose pour les jeunes, hein, lorsque les gens sont en difficulté sociale, eh bien souvent bien sur le plan psychosocial, il y a des difficultés. Les gens se retrouvent isolés, mais aussi des soucis de santé qu'il faut traiter avant de retrouver cette dynamique qui permet d'aller vers l'emploi. Ensuite, il y a aussi tout ce qui est numérique. Alors les jeunes ont peut-être moins cette difficulté, mais en tout cas il faut avoir accès à l'ordinateur et déjà l'acheter, etc. Donc il y a un gros effort qui est fait sur la lutte contre l'électronisme et la fracture numérique, avec des accompagnements qui se mettent en place dans tout le département, y compris tous les partenaires souvent mettent en place ce type d'accompagnement. Et nous avons justement créé une application informatique qui localise géographiquement tous ces points où les gens peuvent avoir accès et à un ordinateur et à un accompagnement. Et lorsque il y a des zones blanches, ça nous permet de créer le service pour répondre à ces besoins partout sur le territoire héraultais. La stratégie nationale, il y a la garantie d'activité avec et la levée des freins à l'insertion sociale et professionnelle. Mais en fait, souvent, c'était des sujets qui étaient déjà abordé au département. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, hein, on entend, hein, sur le plan national, les allocataires, il y a quand même une discrimination importante, hein, dans les propos tenus souvent sur les allocataires du RSA, et on va tous les faire travailler. Enfin voilà, il semble que ça n'a jamais été, qu'il n'y a aucune politique. Moi je rappelle simplement que, comme je vous le disais, les départements mettent beaucoup de moyens. Et on travaille avec 120 partenaires et associations, souvent sur tout le territoire. Les gens ont accès avec de la proximité à des accompagnements. Et il faut savoir que quand les gens sont allocataires du RSA, et bien souvent, comme je vous le disais, une part des personnes peut aller vers l'emploi. À ce moment-là, on les oriente vers Pôle emploi qui les accompagne. Ça représente à peu près 36% des allocataires du RSA. Mais la partie qui est plus en difficulté, c'est le département qui continue à l'accompagner en lien avec ses partenaires, hein, avec ses associations spécialisées. Et là, comme je vous le disais, l'accès à l'emploi, il n'est pas automatique. Ces gens-là, s'ils ne travaillent pas, c'est qu'ils ont des difficultés qui ne leur permettent pas d'accéder à l'emploi. Donc il y a tout un travail préalable qui doit être mené, y compris retrouver la confiance en soi et retrouver sa dignité. Et ça, c'est vrai que c'est assez, je trouve, populiste d'annoncer des choses disant, voilà, on va mettre les gens à l'emploi, ils vont travailler 15 heures par semaine. Ils verront que la réalité n'est pas aussi simple. Et il faut bien rappeler qu'au départ, le minimum du RSA était un minimum vital. Et que les gens, avec 500 euros par mois, malheureusement, c'est pas suffisant pour vivre dignement. Et l'objectif du département, c'est s'inscrire dans des droits et des devoirs et aller vers un emploi pérenne pour que les gens retrouvent des conditions de vie correctes.
La démarche portée par le département et ses partenaires associe ainsi de manière logique la lutte contre la précarité et l'appui à l'insertion sociale et professionnelle. Le département soutient les jeunes à travers des dispositifs multiples et des résultats positifs peuvent être observés, bien qu'il reste encore à faire.
Je peux vous parler des résultats qu'obtient le département chaque année en termes d'insertion. Alors évidemment, la période Covid a été particulière. On a eu une augmentation, hein, du nombre d'allocataires et un peu moins de sorties. Mais en général, chaque année, ce sont 5500 personnes qui sortent du RSA pour accéder à un emploi pérenne ou à une formation qualifiante qui leur permettra d'accéder à cet emploi pérenne. On a une action qui est très volontariste et qui donne des résultats. Et on a calculé, alors ça c'est intéressant, parce qu'on dit toujours tout ce qui est politique sociale coûte cher. C'est vrai que ça a un coût, mais si on regarde les gens que nous accompagnons vers l'emploi, en fait, on fait des économies. Parce qu'une fois que les personnes sont dans l'emploi, ben, on ne verse plus cette allocation. Et en fait, il y a un mode de calcul qui permet de voir que ce sont des économies que génèrent les politiques sociales, qui sont primordiales dans notre société et surtout dans notre département qui est très touché par la pauvreté. Le département gère le fonds d'aide aux jeunes hors métropole. Mais c'est un dispositif qui existe depuis de nombreuses années, qui s'est renforcé et qui permet aux jeunes de les aider à concrétiser un projet. Je pense notamment, par exemple, à passer le permis de conduire, qui est là aussi un préalable pour accéder à un emploi ou à des études, et à se dé... parce qu'on sait bien que la mobilité est un sujet important. Donc là, en complément aux politiques de l'État, ben, le département a un dispositif qui s'appelle Cap Jeune, qui est en train d'évoluer parce que l'État a mis en place la garantie jeune. Enfin voilà, ça va s'amplifier. La région aide énormément les jeunes également, hein, dans le domaine de l'apprentissage. Il va y avoir aussi un dispositif par rapport aux métiers dans l'environnement. Et le département va venir en complément. Donc nous souhaitons vraiment amplifier notre politique en faveur de la jeunesse, mais nous ne voulons pas venir en doublon des autres institutions dont nous sommes en train de travailler ensemble, comment le département va faire évoluer sa politique jeunesse pour mieux prendre en compte les difficultés que rencontrent les jeunes sur nos territoires.
L'insertion sociale et professionnelle est donc évidemment un sujet complexe qui nécessite l'intervention coordonnée et durable de nombreux acteurs différents. La stratégie lancée par le gouvernement au niveau national depuis près de 4 ans maintenant contribue ainsi à une accélération de ce travail et une plus grande coordination entre ces acteurs. La région Occitanie et le département de l'Hérault représentent des enjeux importants, étant particulièrement impactés par le taux de pauvreté. Néanmoins, ce n'est peut-être pas une fatalité et de nombreux individus, institutions, associations et autres organismes travaillent à l'amélioration de la situation, à l'instar des intervenants de ce reportage. Merci ainsi à Claude Chastanier, Laurent Parra et Claudine Vassas-Mégerie pour leur participation et le temps qu'ils m'ont accordé. Retrouvez plus d'informations sur les différents dispositifs existants auprès du CRIJ, de la mission locale ou encore de Pôle emploi. De nombreux outils existent.
C'était un magazine du CRLO en partenariat avec la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.